Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Il est parti de rien, puis il a tout conquis. Figure mythique, objet de fascination, son ascension fut spectaculaire, tout comme sa chute. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire. Napoléon, l'empereur qui a dominé l'Europe.
On ne peut absolument pas reprocher à Bonaparte d'avoir pris les rênes de commandement. Car la France était perdue. La France n'avait plus rien. Il n'y avait plus un sou en caisse. Voilà où en était la situation. Eh bien, en 4 années, Bonaparte est parvenu à faire de cet État sans âme un pays qui va dominer l'Europe, qui était à ce moment-là le monde. Et c'est pour cela qu'il faut l'admirer.
Les propos du biographe André Castello, c'est à l'occasion du 200e anniversaire de naissance de Napoléon en octobre 1969. Pour plusieurs, son nom évoque la gloire, mais aussi le despotisme. Conquérant et législateur, son destin fut exceptionnel. Devenu général dans la jeune vingtaine, Napoléon Bonaparte change le monde en à peine 15 ans et laisse un héritage indélébile avant d'aller écrire sa légende en solitaire, prisonnier au milieu de l'Atlantique.
Quel costume portez-vous?
Ceci est mon uniforme. J'ai conduit nos troupes à la victoire à Toulon.
Quel est votre nom?
Napoléon.
Le cours de ma vie vient-il de changer? Napoléon?
Je suis destiné à de grandes choses. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier. Je vous suggère le titre de roi. Pouvons-nous voter ? Cette vermine a pris le monde en otage avec son égotisme et son manque de bonnes manières.
Un extrait de la bande-annonce du nouveau film de Ridley Scott, Napoléon, dont la sortie prévue ces jours-ci, le plus grand film jamais réalisé sur ce personnage mythique. Alors pour nous en parler, mon invité Pascal Bastien, il est professeur d'histoire à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Bonjour.
Bonjour, monsieur Coutier.
Alors on s'attaque à gros, hein, et on va se limiter à l'ascension de Napoléon, de sa naissance jusqu'à son sacre comme empereur. Évidemment, on n'a pas le même rapport qu'ont les Français avec ce personnage, mais tout le monde en même temps le connaît. Hein, pour preuve, ce film anglo-saxon, pourquoi il fascine autant Napoléon?
Comme beaucoup d'autres personnages, mais peut-être d'une façon encore plus fulgurante, compte tenu de la légende qu'il a lui-même écrite et que tout le 19e siècle a reconstruite systématiquement, réinventée, c'est quand même la figure peut-être la plus étonnante du chef militaire invincible. C'est vraiment à la fois la figure de l'homme providentiel qui aurait sorti une France ravagée par la Révolution pour l'intégrer dans un état d'ordre et de paix. Mais c'est aussi celui qui franchit tous les obstacles, qui réussit à vaincre sur une armée beaucoup plus nombreuse et puissante que la sienne. Il réussit à renverser, en fait, tous les pronostics.
D'où peut-être ouais, cette fascination pour cet homme qui est parti de rien. Donc parlons de ses origines, né en Corse. C'est qui Napoléon, le jeune Napoléon, c'est qui?
Le jeune Napoléon, d'abord, parti de rien, certes, mais en même temps, il est d'une petite noblesse corse. Alors, Napoléon Bonaparte, ou plutôt Napoléone Bonaparte, est né à Ajaccio. C'est-à-dire que c'est un Corse. Son père est toscan, donc il a une origine italienne. La Corse est, jusqu'en 1768, sous la responsabilité de la République de Gênes. Et en 69, donc au moment où Napoléon naît, eh bien, il est tout juste français, puisqu'elle est désormais sous la souveraineté française. Mais effectivement, il naît dans une famille qui n'est pas particulièrement fortunée, mais le père est avocat, juriste, est un peu impliqué dans la politique de la Corse, et c'est l'un des 8 enfants d'une petite famille qui a des terres, qui a des vignes, mais dont finalement la prospérité peut être renversée d'un moment à un autre.
Oui. Et donc, bon, il devient militaire assez jeune. Il va à Paris par faire son éducation.
Oui, parce que son père réussit à faire reconnaître sa noblesse italienne par la France. Il peut donc, au nom de l'aristocratie française, offrir à ses enfants des bourses d'études pour qu'ils puissent aller dans des écoles militaires. Donc, il apprend, ou il parfait son français, parce qu'il parle d'abord le corse et l'italien, il parfait son français à l'âge de 10 ans au collège d'Autun, mais arrive à l'âge de 10-11 ans au collège de Brienne, et puis enfin, en 1784, il entre à l'École royale militaire de Paris, où là, il va obtenir son diplôme d'officier en 1785.
Oui. 1785, donc, quelques années plus tard à peine, hein, il est tout jeune militaire à Paris en 1789, quand survient la Révolution, la prise de la Bastille. Comment il perçoit la chose, lui, comme jeune militaire, là-bas?
En juillet 89, il a donc 19 ans. Mm-hmm. Il n'est pas à Paris au moment où la prise de la Bastille éclate. Il est un peu plus au nord du royaume. Et dès le 19 juillet, compte tenu de révoltes populaires, il est en tant que soldat, on lui confie l'ordre de réprimer assez sévèrement une émeute populaire. Mais avec ses lectures qui précédaient la prise de la Bastille, et dès le moment de la prise de la Bastille, il est assez sensible à la France, et il est assez séduit par les idées révolutionnaires.
Pourquoi? Qu'est-ce qui le séduit là-dedans?
D'abord, il y a un attachement très clair à la France. En Corse, ouais. Où il continue à aller à faire Paris, Corse, ou la France et la Corse, il y a deux factions politiques en Corse, l'une qui souhaiterait être indépendante et l'autre qui souhaiterait être rattachée à la France. Il est d'abord très français. Il se sent très français, il veut rester très français. Et puis cette idée de liberté, en quelque sorte, n'allons pas associer liberté à démocratie, hein, mais pour lui, la liberté, c'est une façon de se sortir justement du carcan dans lequel il se trouve. Parce que même s'il est un petit noble de Corse, et son passage au collège militaire de Brienne l'a bien démontré, c'est un marginal, c'est quelqu'un dont on se moque en raison de son accent, et il voit dans la Révolution une possibilité d'ascension sociale, libérée en fait de toutes les contraintes.
Oui. Ce qu'il va obtenir, hein, parce que général à 24 ans seulement, comment il parvient à se hisser comme ça si rapidement au sommet de la hiérarchie militaire?
Bonaparte va profiter de ce moment révolutionnaire. La Révolution est d'abord et avant tout, on tend à l'oublier, une guerre civile. Ensuite, elle est aussi, dès 92, dès avril 92, le royaume, donc en 92, on n'est pas encore en République, mais il y a une déclaration de guerre et la France révolutionnaire est en guerre contre d'abord l'Autriche, mais ensuite rapidement toute l'Europe. C'est donc, à l'intérieur et à l'extérieur, un pays qui a besoin de soldats. C'est une logique d'ailleurs qui existe depuis 89, l'idée d'être un citoyen est un soldat. Alors, Bonaparte va, si vous voulez, se faire valoir son talent face à une armée qui est désarçonnée, qui est indisciplinée. Rappelons que beaucoup d'aristocrates ont émigré, compte tenu de la Révolution et de la peur que cela suscite. Mmh. Or, les officiers sont très largement des nobles. Donc, il va pouvoir, lui, en tant que noble qui décide de rester en France, va pouvoir lui obtenir des postes d'officier et donc, en tant que capitaine, on va lui confier toute une série de responsabilités, dont celle de pouvoir défendre contre les armées étrangères, les Anglais ou les Autrichiens, défendre la France. En septembre 93, quelques mois après l'exécution du roi, la guerre se veut absolument sans merci. Hein, l'Europe veut écraser la France puisqu'elle a coupé la tête de son roi. Oui. En septembre 93, on va confier au capitaine Bonaparte le soin de protéger Toulon, au sud de la France, de la tentative d'invasion anglaise. Enfin, il va reprendre Toulon de la main des Anglais et il va manifester là son grand talent militaire. Le hasard veut que, enfin ce n'est pas un hasard, mais néanmoins, il fait connaissance de Augustin Robespierre, jeune frère de Maximilien Robespierre, qui était à Toulon pour pouvoir informer l'Assemblée nationale de ce qui se passait. Et ils vont se lier d'amitié assez rapidement.
Donc, des succès à Toulon, ce qui fait qu'on lui confie la campagne d'Italie par la suite. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas en Italie?
Bien, après la chute de Robespierre, Bonaparte va être relativement discret. Hein, parce qu'à travers les sommets, parce qu'il était associé aux Jacobins, là, la tête de Robespierre, de son ami Augustin, vont tomber. Donc, il va se faire un peu discret. Il va faire un court séjour en prison, parce qu'on va l'associer aux Jacobins. Mais lorsqu'il va en sortir, au moment où la Convention nationale se termine et où le directoire, c'est-à-dire un nouveau gouvernement, est organisé, on va rappeler celui qui s'était distingué à Toulon pour pouvoir lui confier une autre mission. de diriger l'armée d'Italie parce que les Autrichiens cherchent à entrer par l'Italie, qui font partie des propriétés du Saint-Empire romain germanique, vont chercher à entrer dans le territoire français. Et donc l'idée, hein, sous le prétexte qu'il faut aller aider les révolutionnaires italiens, mais en fait, la raison réelle de la campagne d'Italie, c'est d'arrêter l'arrivée des Autrichiens en France. Et c'est là, sans aucun doute, il va se distinguer comme un militaire de grand talent et également un propagandiste de génie.
Oui. Général qu'on a du mal à gérer quand même, hein, qui prend beaucoup d'initiatives personnelles. Et à ce sujet, on va écouter Henri Guillemin à notre télé le 29 septembre 1968.
Qu'est-ce qu'il est, Bonaparte? Un général. C'est un général de division et même maintenant un chef d'armée, si vous voulez. Mais qui est chargé par un certain gouvernement qui s'appelle le directoire de faire la politique du gouvernement. Or, il fait sa politique personnelle. C'est un militaire abusif. C'est quelqu'un qui se permet de prendre des initiatives diplomatiques. Ce qu'un général ne peut que s'interdire. Le directoire avait déjà été extrêmement étonné de voir comment il s'était comporté à l'égard du pape. Le directoire qui détestait le pape avait dit « Vous allez marcher sur Rome et faire sauter le pape ». Bonaparte, lui, il n'agissait pas comme ça. Il s'est dit « Du pape, il a de l'argent ». Alors, j'ai aucune raison de le faire sauter. Il avait d'ailleurs des arrière-pensées là-dessus. Mais je vais lui tirer de l'argent. C'est la même chose que ce qu'il avait fait pour des neutres. Des neutres qui ne sont pas dans le coup. Le duc de Modène, le duc de Parme. C'est une politique de gangster, très exactement. Vous savez, il a le pistolet qui le retient devant le nez. Il a dit « Si vous ne payez pas, je tire ».
Napoléon, un gangster. En tout cas, ça fonctionne parce qu'il s'enrichit, il va enrichir les coffres de l'État, mais ça ne plaît pas à la classe dirigeante à Paris, au directoire. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, par la suite, on l'envoie très, très loin, en Égypte?
C'est l'une des hypothèses, en tout cas, dans la mesure où Bonaparte construit son image, une image qui plaît beaucoup aux Français. Dans le cadre d'un gouvernement, le directoire, c'est quand même le cas aussi depuis le début de la Révolution, mais dans le cadre d'un gouvernement, le directoire, qui est assez rapidement l'objet de critiques, de corruption. Alors, lorsque on entend parler d'un général invincible, d'un homme de talent qui assure l'ordre et la pacification là où il passe, il est clair que les agents du directoire trouvent que à Paris, Bonaparte est peut-être plus nuisible qu'il ne l'est à l'étranger. Et donc, dès qu'il revient des campagnes d'Italie, glorieux, c'est une véritable célébrité, on va d'abord lui confier l'invasion de l'Angleterre. Il va convaincre le directoire que ce n'est pas une bonne idée. Oui. Mais en revanche, l'Égypte, elle, pourrait permettre de nuire à l'Angleterre puisque ce serait de couper l'accès des Anglais aux Indes. Donc, la campagne d'Égypte vise à nuire aux Anglais et donc on va lui donner beaucoup d'argent à Bonaparte. On va lui confier ses meilleurs hommes et ils vont, en 98, quitter la France. Le directoire va souffler un peu en disant la menace du héros célèbre, on va s'en écarter. Et puis, donc, effectivement, l'armée, un gigantesque convoi de navires, de chevaux, de soldats, partent pour arriver à Alexandrie en juillet 98.
Oui. Et là, c'est plus qu'une guerre, hein, parce que c'est aussi c'est peut-être tout le talent, le génie de propagandiste aussi de Napoléon. C'est une expédition scientifique, une expédition culturelle. À ce sujet, l'historien Alain Decaux, dans les archives de l'INA en France, en 1987.
Il n'existe pas beaucoup de généraux qui, en préparant une guerre, envisagent à l'avance ce qu'elle pourra apporter, cette guerre, aux sciences et aux arts. Et c'est pourtant ce que fait Bonaparte. Il charge le grand savant Monge de recruter. Aussi bien des astronomes que des zoologistes, que des physiciens, que des médecins, des chirurgiens, et puis aussi des écrivains, et puis des artistes, de tout. Des savants, comme on disait à l'époque. Et pourquoi? Eh bien parce que il veut que tous ces hommes réunis, conduits par lui-même en Égypte, tentent à leur tour de percer le mystère de l'Égypte. Et ça n'est pas banal. Et il y a même, sur ces bateaux qui vont quitter Toulon, il y a même des imprimeurs, parce qu'il envisage déjà Bonaparte de faire imprimer un journal en Égypte.
Et il y aura aussi toute une série d'ouvrages, 24 ouvrages, sur cette campagne égyptienne, ce qui contribue aussi au mythe. Pourquoi cette campagne d'Égypte, elle alimente comme ça le mythe de Napoléon?
D'abord, on trouve dans cette campagne d'Égypte quelques victoires militaires, bien entendu, mais aussi des défaites, dont une première défaite d'Aboukir, là où, lorsque Nelson fait couler à peu près tous les navires français et que Napoléon et ses hommes se retrouvent prisonniers de l'Égypte. Et c'est notamment, dit-on, à cette occasion que Bonaparte s'est dit « Bon, j'ai à peu près 160 savants à mes côtés pour faire oublier les défaites militaires, cherchons à miser sur le service que l'on rend au monde, le service que l'on rend à la République, mais le service que l'on rend au savoir. Quelques années avant son départ pour l'Égypte, Bonaparte, récompensé en quelque sorte par Paris, est entré à l'Institut, hein, qui est une institution de savoir qui remplace les grandes académies royales qui ont été supprimées. Et il se croit, il se pense, il se donne pour mandat comme responsabilité de protéger et de produire des connaissances. Et dans ce cadre-là, la campagne d'Égypte est pour lui une occasion rêvée de faire oublier ses défaites, mais aussi de rappeler qu'il n'est pas au service d'une ambition, il est au service de la République, il est au service d'un universalisme du savoir.
Oui, et là, ben, ça contribue évidemment à accroître son prestige. Donc, il revient d'Égypte. Est-ce qu'il revient, victorieux quand même?
À moitié. Puisque en 1801, l'Égypte redevient totalement anglaise. Hein. Il a réussi avec une victoire à Aboukir, une victoire terrestre cette fois-ci. Donc, il a réussi à repousser les armées de l'Empire ottoman. Mais c'est assez discrètement dans une frégate qu'il va quitter, plus ou moins en catimini, l'Égypte, en laissant Kléber et une large partie de ses hommes en Égypte, pour revenir à Fréjus et arriver à Paris. Parce que, bien qu'il ait été isolé en Égypte, il sait un petit peu ce qui se passe en France. Il sait que c'est le désordre, il sait que c'est la corruption, il sait que c'est une grande impopularité. Et il se dit peut-être que la France a besoin de moi en France beaucoup plus qu'en Égypte.
Oui, mais il y a là une opportunité. Donc, il revient. Comment, justement, de simple général, bon, plus que simple général, mais général, comment il parvient comme ça à devenir chef de l'État?
Donc, dès qu'il arrive à Paris, il est sollicité par des membres du directoire. C'est-à-dire que par son ancien ami Barras, par Seyès, qui est un acteur de la Révolution depuis ses débuts, parce qu'on veut fomenter un coup d'État. Le coup d'État, ce n'est pas son idée. C'est-à-dire qu'il voulait jouer un rôle. Il avait même rêvé se présenter aux élections pour être membre du directoire. Mais finalement, donc, Seyès, Barras et d'autres vont lui demander de participer à un coup d'État parce que, compte tenu de l'impopularité, il fallait trouver un moyen de redonner à la République un gouvernement qui fonctionne. Et donc, c'est un peu complice, d'abord et avant tout, qu'il accepte de participer au coup d'État. Le rôle qu'on lui confie, c'est d'escorter avec ses hommes les députés de l'Assemblée législative, hein, du Conseil des 500 et du Conseil des Anciens, de les escorter de Paris à Saint-Cloud sous prétexte qu'il y aurait une conspiration jacobine qui voulait renverser le pouvoir. Mais en fait, l'objectif était de profiter de cette vacance de pouvoir de l'Assemblée pour essayer de proposer une nouvelle constitution.
Par un coup d'État, mais sans ébullition de sang, mais quand même sous la menace des armes. C'est raconté ici, on va l'écouter dans la mini-série Napoléon, réalisation Yves Simoneau avec Christian Clavier dans le rôle de Bonaparte et Yves Jacques dans le rôle de son frère Lucien. C'était en 2002.
Crois-tu que ton frère pourra réunir suffisamment de députés pour faire procéder à un vote?
Oui, il a encore suffisamment de partisans. Quel que soit le résultat, il sera parfaitement légal.
Les députés ont dissous le directoire. Il crée à sa place une commission consulaire exécutive composée du général Bonaparte et des citoyens Seyès et Roger Dupont. Tous trois porteront le titre de consul de la République française. Le décret prend effet immédiatement. Officiers, faites présenter les armes au consul de la République.
Présentez-les. Aux ordres.
Vive Bonaparte.
Et c'est ainsi qu'il devient donc chef de l'État. On est en novembre 1799. 5 ans plus tard, le 2 décembre 1804, Napoléon va s'autoproclamer empereur sous le nom de Napoléon Ier. On a tous vu l'image, hein, évidemment, lui-même qui pose la couronne sur sa tête. Pourquoi empereur? Premier consul, ça suffit pas?
En fait, là encore, c'est une marche assez rapide, hein, mais c'est une marche vers une consécration ultime. C'est-à-dire qu'il a d'abord reçu le consulat à vie. Hein, ce sont ses camarades au consulat qui l'ont voté. Et puis ensuite, Bonaparte considère que pour véritablement assurer la paix, c'est du moins de cette manière qu'il le justifie, il faut qu'il soit une tête couronnée. Pour pouvoir parler au prince, il faut qu'il soit une tête couronnée. Pour lui, être empereur, c'est à la fois de pouvoir régénérer l'ancien empire carolingien, mais aussi de pouvoir enfin être face à face avec les autres princes de l'Europe.
Donc, bon, un empereur qui fait face aux autres princes, on dit toujours de lui génie militaire. Est-ce qu'il était le génie militaire qu'on a souvent décrit?
C'était un très, très grand stratège. Génie, c'est un mot que j'hésite à utiliser. Il est clair qu'il a pu compter sur d'extraordinaires généraux. surtout au tout début avec la campagne d'Italie. Ensuite, on a commencé à reconnaître ses stratégies. Mais la rapidité, sa connaissance du terrain, c'est un grand mathématicien, un grand géographe. C'était effectivement un très, très grand militaire. Mais à cela, c'est aussi un homme d'un grand sens politique. Et à chaque fois, sa carrière militaire n'était jamais très, très loin de sa carrière politique, ni de ses ambitions politiques.
Grand stratège militaire, assurément. C'est un homme de guerre. Hein. Ses soldats lui sont dévoués, fidèles, mais c'est aussi quelqu'un d'assez cruel, qui fait toujours mépris de la vie humaine avec des centaines de milliers de morts. À ce sujet, un extrait encore une fois, André Castelot en 1969.
Napoléon est un autocrate, Napoléon est un dictateur, Napoléon nous gêne par bien des côtés. Il y a même parfois un côté cruel qui nous gêne aussi. Quand on le voit par exemple sur le champ de bataille de Iéna, retourner avec son pied les corps des combattants qui sont là, et pour indiquer qu'il ne s'agit pas d'officiers mais de simples soldats, il dit simplement « mon Dieu, c'est de la petite espèce ». Lorsque Napoléon dit aussi « un homme comme moi se fout de la vie d'un millier d'hommes, ou de 100 000 hommes, même a-t-il dit un jour, eh bien cela nous gêne ».
Oui, parce que c'est un despote, Napoléon. C'est un tyran, c'est un dictateur aussi.
Oui, sans aucun doute, effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas pris le pouvoir pour le partager. Lorsqu'en 99, il devient premier consul, il a cette phrase « Je ne suis ni bonnet rouge, donc ni révolutionnaire, oui, ni talon rouge, donc ni aristocrate, je suis national ». Et pendant l'ensemble de sa carrière politique et militaire, il cherchera à la fois ménager les royalistes et à la fois ménager les républicains, mais ça coûte. C'est-à-dire que ça coûte quelque chose, ça coûte évidemment sur les champs de bataille, bien entendu, à l'égard de ses propres soldats et des soldats étrangers, mais sur le territoire également. Cela veut dire qu'il faut réprimer à la fois les complots républicains, révolutionnaires, à la fois les complots monarchistes, parce que rien ne peut résister au pouvoir de Napoléon. Pour lui, il ne peut rester au pouvoir que s'il écrase toute forme de résistance à son égard.
Oui. Connu sous le nom de Napoléon Ier, parfois on dit Bonaparte, d'autres fois Napoléon, parfois Napoléon Bonaparte. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y en a une?
Peut-être que le plus pratique serait tout simplement de toujours l'évoquer sous le terme de Napoléon Bonaparte. Mais il est vrai que d'un point de vue historiographique, mais d'un point de vue diplomatique également, on parle de Bonaparte et du général Bonaparte jusqu'en 1804. C'est-à-dire que lorsqu'il est premier consul, on parle toujours de Bonaparte. Mais lorsque, avec le couronnement impérial, il cesse d'être un représentant de la nation et devient un représentant dynastique, en quelque sorte. Il est le premier, veut-il penser, d'une longue lignée de Bonaparte. Eh bien, il devient désormais Napoléon Ier. C'est le nom, c'est l'image que nous avons gardée. Mm-hmm. C'est l'image très claire de la scène du couronnement que nous avons gardée. Oui. Mais on pourrait diviser Bonaparte de sa naissance jusqu'en 1804 et Napoléon de 1804 jusqu'à sa mort.
Ouais. Personnage en tout cas fascinant, puisqu'en quelques années seulement, il va dominer l'Europe avant de connaître une chute brutale et de mourir en solitaire sur une île complètement perdue au milieu de l'Atlantique, ce qui contribue au mythe de Napoléon, bien sûr. Mon invité, Pascal Bastien, professeur d'histoire, historien à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup pour votre présence.
Merci à vous.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier là-dessus. Bonne soirée. À demain. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.